Bonjour à tous, bienvenue dans Du grain à moudre d'été. Ce soir, qui contrôle encore la police ? La disparition de quelqu'un à l'occasion d'une intervention policière constitue un devoir de réaction. Toutefois, ça ne veut pas dire que l'on doit faire toute la lumière. Ça veut dire qu'on doit faire ce qu'on peut avec les moyens dont on dispose dans le cadre d'une enquête administrative. Ainsi réagissait la directrice de l'IGPN dans un long entretien à Libération dimanche dernier. Brigitte Julien répondait aux critiques formulées à l'encontre de l'inspection générale de la police nationale et de son tout récent rapport qui dédouane les forces de l'ordre de la chute dans la Loire de Steve Canisso la nuit de la fête de la musique à Nantes. La police des polices aurait un périmètre d'action très étroit, dit-elle encore. Exemple, il n'est pas possible d'accéder au PV de plainte, on ne peut pas non plus convoquer des tiers, ils doivent se présenter spontanément. Et le chef de l'unité de coordination des enquêtes, David Chantreux, d'ajouter « On ne dit pas qu'il n'y a aucune possibilité d'un lien entre la chute de Steve et l'intervention de la police, on dit simplement qu'on n'en a pas établi avec nos moyens. » Dans ce cas, on est en droit de se le demander, à quoi sert l'IGPN ? Particulièrement sollicité depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, ces rapports se suivent et se ressemblent, les enquêtes sont tout ou presque classées sans suite, ainsi par exemple de celles qui concernaient l'interpellation des 150 élèves de Mantes-la-Jolie en décembre dernier en marge d'un blocage lycéen. L'IGPN est-elle sous tutelle du politique ? Comme le disent ses détracteurs, comment mène-t-elle ses enquêtes ? Fait-elle trembler les commissariats ? Qui contrôle encore la police ? Nous recevons trois invités pour en parler. Bonsoir Fabien Jobard.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au CNRS, rattaché au Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales, c'est le CESDIP. Vous êtes ici en studio avec Marion Guémas. Bonsoir.
Bonsoir.
Responsable des programmes Police, Justice, Prison à l'ACAT, qui est l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture. Ainsi qu'à vous, bonsoir Denis Jacob.
Bonsoir.
Secrétaire général d'Alternative Police, CFDT. Voilà, vous êtes donc tous les trois ici pour parler sereinement, mais sans doute avec beaucoup de désaccords ou pas, de nuances dans vos positionnements sur cette question du contrôle de la police. Vous avez peut-être les uns et les autres lu le rapport de l'IGPN publié il y a 8 jours et qui dédouane les forces de l'ordre de la chute de Steve Baya-Canisso dans la Loire. Le rapport, ou plutôt sa synthèse, puisque le rapport lui-même a très peu circulé. Peut-être d'ailleurs, Fabien Jobard, que vous avez pu arguer de vos travaux de recherche pour l'obtenir ou pas?
Non, je n'ai pas fait cet effort encore. Faut dire que j'étais en vacances la semaine dernière,
d'accord,
loin d'ici.
Mais est-ce que vous pensez qu'on vous l'aurait transmis ?
Oh là, je veux pas présumer de quoi que ce soit. C'est sûr que l'IGPN a fait des gros efforts dans sa communication depuis quelques années, et notamment sous l'impulsion de son ancienne directrice. Mais il est clair que peut y avoir un écart très grand entre la matière première, la matière brute du rapport, qui fait plusieurs dizaines de pages, et la synthèse qui en fait 8, je crois.
9, oui.
9.
235 pages de rapport, une synthèse
c'est
de 9
ça.
Pages.
On avait eu l'expérience il y a un an d'une conférence de presse organisée par l'alors directrice, la prédécesseur de l'actuelle directrice de l'IGPN, sur l'augmentation du nombre de tirs par les fonctionnaires de police en service. Et aucune documentation écrite n'avait été communiquée. Alors celle-ci, je l'avais demandé, j'avais fini par effectivement l'obtenir, mais on voit bien que c'est une institution qui n'a pas pour habitude de communiquer à l'égard du public. C'est une institution de la police visant à juger des cas qui lui sont transmis, visant également à enquêter au service de l'autorité judiciaire, mais ça n'est pas une institution qui a pour habitude de communiquer. Elle commence à le faire, mais on le voit que elle le fait de manière
maladroite,
un peu chaotique, maladroite, fragile. La synthèse du rapport sur les circonstances de l'intervention à Nantes le montre assez bien, il me semble.
Alors voilà le récit que fait cette synthèse de rapport de la nuit du 21 juin à Nantes. Voyant que la musique continue au-delà de leur limite autorisée, qui est donc 4 heures, une équipe de 4 policiers se rend sur place, bientôt renforcée par une vingtaine d'agents. Ils reçoivent des projectiles et ripostent à l'aide de gaz lacrymogène, de tirs de lanceurs de balles de défense, donc les LBD, et de grenades de désencerclement ainsi que d'un taser. Usage de la force qui était, dit la synthèse, justifié et qui n'est pas apparu disproportionné. Alors, Denis Jacob, comment on mesure que l'usage de la force est disproportionné ou ne l'est pas ? Dans les deux cas, c'est subjectif. Or, dans Libération, Brigitte Julien dit que l'IGPN parle en droit.
Oui, parce que quand les fonctionnaires de police sont intervenus, il faut savoir que préalablement, contact a été pris avec le seul DJ qui avait refusé de couper la musique. Ils sont intervenus, sont allés le voir, ils ont dialogué, ils ont demandé à ce que ce soit coupé, et le DJ ne s'est pas exécuté, et en plus, il a harangué la foule. Donc du coup, il a commencé à y avoir un peu de violence de la part de ceux qui fêtaient ce soir-là. Et donc, il a été décidé d'intervenir. Est-ce que l'intervention était adaptée? Je peux pas le dire, moi, parce que j'étais pas sur place. Et donc, je ne préjugerai pas de ce qui s'est réellement passé. Pour autant, les fonctionnaires ont exécuté les ordres qu'ils ont reçus et sont intervenus avec les moyens qu'on leur attribue dans le cadre de ce que permet la loi. Pas plus, pas moins. Et c'est là-dessus qu'argumente l'IGPN. Mais je pense qu'il faut prendre le problème bien en amont. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le Premier ministre a demandé une enquête IGA. C'est
une
pourquoi
de l'Inspection générale de l'administration.
Pourquoi la préfecture, pourquoi la municipalité a autorisé un tel événement en ce lieu, alors qu'il est clairement établi que dans les années précédentes, on a eu des faits de personnes alcoolisées ou sous l'emprise de stupéfiants qui se sont déjà retrouvés à la Loire. Pourquoi ce lieu n'a pas été sécurisé? Pourquoi on a autorisé cette fête de la musique jusqu'à 1h du matin et une tolérance jusqu'à 4h? Et pourquoi ce DJ ne s'est pas exécuté? Parce que sa responsabilité est aussi engagée. Je ne veux pas dédouaner le choix de l'intervention de police.
Voilà, parce qu'on dit que le rapport qui désigne la responsabilité de la municipalité dédouane d'une certaine manière la responsabilité de la police. Donc, pour rester sur les faits, puisque vous voulez rester sur les faits, Denis Jacob, vous n'étiez pas sur place. On dit dans le rapport qu'en 20 minutes, de 4h31 à 4h52, 33 grenades lacrymogènes ont été tirées, 10 grenades de désencerclement et 12 tirs de lanceurs de balles de défense. Est-ce que, comme ça vous paraît habituel?
C'est habituel, surtout qu'il faut signaler qu'il y a eu 4 policiers blessés dans cette intervention. Est-ce qu'il fallait intervenir de la façon dont ils l'ont fait avec ce nuage de gaz lacrymogène en repoussant ces personnes vers la Loire? Je ne sais pas si c'était adapté, mais on ne peut pas dire qu'il ne fallait pas intervenir. On est requis pour des troubles à l'ordre public. Notre travail, c'est de rétablir la paix publique. Après, est-ce que c'est comme ça qu'il fallait intervenir? C'est aux autres enquêtes, puisque je rappelle que l'enquête IGPN n'est qu'une enquête administrative et que son but, son rôle, c'est avant tout de voir s'il y a eu des manquements de la part des policiers et non pas d'établir les faits judiciaires qui peuvent s'inscrire dans le cadre, malheureusement, du décès de Steve Canisso.
Marion Guémaz, vous avez sans doute lu avec attention l'interview de Brigitte Julien, la longue interview dans Libération qui, pour appuyer ce que vient de dire Denis Jacob, dit que l'IGPN agit et travaille dans un périmètre très circonscrit avec des moyens limités, des moyens de l'administration et non pas de la justice. Est-ce que vous trouvez cette argumentation intéressante, valable? Est-ce que vous attendiez plus de ce rapport?
Alors c'est un fait, donc effectivement que l'enquête administrative, dans le cadre de l'enquête administrative, on n'a pas, l'IGPN n'a pas les moyens de qu'elle peut avoir dans le cadre de l'affaire judiciaire, dans les enquêtes judiciaires, pardon. Ce qui est intéressant dans cette interview, c'est effectivement la question de la loi. Il y a un trouble à l'ordre public, les forces de l'ordre peuvent intervenir, mais il y a la question de la proportionnalité, effectivement des moyens qui sont utilisés. Je crois que c'est Mediapart qui a écrit un article pour qui revenait sur justement une fête de la musique au même endroit à Nantes il y a 2 ans. Et qui justement, où là, le choix avait été fait de se replier au risque, enfin voilà, au regard du danger qu'il pouvait y avoir à intervenir à cet endroit-là, à ce moment-là, avec ces moyens-là. Ce que je trouve intéressant aussi, et qui doit interroger dans l'interview justement dont vous parlez, c'est que Brigitte Julien dit qu'on ne peut pas porter un jugement de valeur sur quelqu'un qui fait du maintien de l'ordre. Cela pourrait avoir des conséquences dramatiques pour la gestion de l'ordre public si on dit aux policiers qu'ils auraient dû reculer.
Si on dit ça aujourd'hui
les policiers ne le feront plus. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que au-delà effectivement du cadre légal de l'intervention, quels moyens on met et jusqu'où on va pour faire cesser un trouble de l'ordre public qui, en l'état, en tout cas, bon voilà, encore une fois, moi non plus, j'étais pas sur place, mais est-ce que le trouble était si grand qu'il justifiait de tels moyens?
Fabien Jobard, sur cette argumentation de Brigitte Julien qui dit si on commence à dire ça maintenant aux policiers, c'est-à-dire qu'ils auraient dû reculer, dans n'importe quelle situation, ils vont toujours se demander s'ils doivent reculer ou pas.
Ça, je pense que cette déclaration, elle témoigne d'un changement d'état d'esprit des cadres policiers à l'égard de ce qu'est le maintien de l'ordre et à l'égard de ce qu'est une opération de maintien de l'ordre. On peut joindre à cette intervention de la directrice de l'IGPN la déclaration du préfet, Claude Darcourt, qui dit... Face à des individus avinés qui ont probablement pris de la drogue, il est difficile d'intervenir de façon rationnelle. Ah, je vous propose de changer un terme dans cette déclaration et de dire face à des individus avinés qui ont probablement pris de la drogue, il est indispensable d'intervenir de façon rationnelle. Et on voit comment dans ces deux interventions de responsables publics qui sont tout de même de au rang, l'impératif de discernement, l'impératif de proportionnalité, l'impératif d'opportunité de l'intervention...
Donc de légitimité, en fait.
De légitimité, l'intervention n'est pas questionnée. Alors, effectivement, si vous donnez à des fonctionnaires l'ordre d'intervenir, il ne leur reste plus que l'extrême difficile, admis, mais très étroitement admis par le droit, devoir de désobéissance à un ordre manifestement illégal. Mais c'est extrêmement compliqué.
Il faut l'établir, surtout.
Et il faut l'établir. Il y a une jurisprudence du Conseil d'État qui est très, très stricte là-dessus. Autrement dit, il n'est pas très étonnant de voir qu'ils interviennent. Moi, je m'interroge sur, en effet, la perte du sens de l'opportunité des interventions et la perte du sens de la proportionnalité, de ce qu'on enseigne d'ailleurs en école de police, sous le terme de discernement. Adapter les moyens que l'on emploie à la situation. Pour revenir à votre première intervention, la directrice de l'IGPN dit qu'elle ne juge qu'en droit. Mais en fait, la difficulté en matière de police, c'est qu'on ne peut jamais ne juger qu'en droit. Les policiers, ils ont affaire à des faits, ils ont affaire à des individus, ils ont affaire à des situations. Du coup, juger en droit, c'est, comme on dit en anglais, to police by book. C'est-à-dire, vous prenez votre manuel de police et vous dites, ah ben, alors il faut faire comme ça. Mais on sait que ça ne se passe jamais comme ça. Et donc, ce que l'on attend de l'IGPN, ce que l'on attend d'instances de contrôle, c'est qu'ils jugent eu égard à la configuration et aux situations.
Il faut pas occulter qu'on n'était pas face à un certain nombre de personnes passives. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés pour faire cesser la fête, ils se sont pris tout un tas de projectiles et qu'il a fallu prendre une décision à l'instant T, à chaud, pour pouvoir intervenir.
Sachant que des témoins, alors en l'occurrence un témoin qui est cité de façon anonyme dans le rapport, mais dont le journal Le Monde a retrouvé la trace, dit qu'il était allé voir les policiers et il n'est pas le seul en disant attention, il y a la Loire et là des gens sont en train de tomber dans la Loire. Est-ce que ce rapport de l'IGPN écrit noir sur blanc, c'est qu'aucun élément ne permet d'établir que les forces de police ont procédé à un quelconque bond offensif ou une manœuvre s'assimilant à une charge qui aurait eu pour conséquence de pousser les participants à la fête vers la Loire. La question qui se pose, c'est comment ont procédé les fonctionnaires de l'IGPN, puisque de nombreux témoins ont donc témoigné dans la presse, et Brigitte Julien dit qu'elle ne les a pas vus, ces témoignages, dans la presse, mais que sans doute les fonctionnaires de l'IGPN l'ont vu, pour dire, et notamment ce Jérémy qui dit que lui, il est tombé à l'eau, il ne voyait plus rien, il entendait les gens qui tombaient, lui, il ne voyait plus rien, il s'est accroché à une corde. Mais que voilà, il y a des témoignages pour dire qu'ils sont tombés dans l'eau parce qu'ils n'avaient pas le choix et que ces témoignages-là ne figurent en aucun cas dans le rapport de l'IGPN.
Parce que le rapport IGPN, je le répète, c'est une enquête administrative dont le premier objectif, c'est d'établir s'il y a eu manquement ou pas de la part des fonctionnaires de police. C'est pas
par rapport à un ordre donné.
Par rapport à un ordre donné, par rapport à leur intervention, si ça a été, s'il y a eu des blessés. Là, en l'occurrence, moi, je mets un petit bémol par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je l'ai lu, ce rapport. Alors, ce qui est dommageable, c'est le problème de la communication. Là, il y a un vrai problème de communication et de pédagogie sur ce que fait l'IGPN, sur le rôle et sur la transparence vis-à-vis de la population. Ça, c'est un vrai sujet. Mais le rapport ne dit pas qu'il dédouane la police. Il dit que le rapport n'apporte pas suffisamment d'éléments pour établir qu'il y a un lien de cause à effet entre l'intervention de police et la disparition de Steve. Et ça, c'est l'enquête judiciaire qui doit l'établir. Et c'est là qu'il va y avoir l'audition de tous les témoins, de tous ceux qui ont pu voir quelque chose quand il y a eu cette intervention de police.
Et c'est là Marion Guémas qu'on va pouvoir entendre tous les témoins et aussi le responsable de l'unité CRS qui était présent sur les lieux et qui n'a pas été entendu pour ce rapport.
Je crois qu'il a été entendu.
Alors, Mediapart dit que c'est pas le bon, que c'est pas un responsable CRS, mais que c'est pas celui qui donnait les ordres. C'était pas la bonne personne.
Mais juste pour compléter, je pense qu'il y a aussi la question de effectivement, en termes de communication et de la façon dont ce rapport a été présenté par le politique comme étant le résultat de l'enquête. Sauf que ça a été mal perçu, donc il y a un espèce de rétropédalage où on dit non mais finalement on va saisir l'inspection générale de l'administration, on a un rapport qui date du 16 et du 22 juillet, mais qui n'est publié que 8 jours après. Alors peut-être qu'ils ne l'avaient effectivement pas vu avant, sauf que forcément on se dit mais pourquoi ils attendent finalement qu'on trouve le corps pour l'utiliser, ça donne un sentiment d'instrumentalisation. Et donc le message, il est complètement brouillé. Et donc peu importe finalement qu'effectivement l'enquête administrative, elle a fait dans les limites qu'on peut critiquer, mais en tout cas les limites qui sont ce qu'elles sont. Mais ce rapport qui est instrumentalisé par le politique, avec une IGPN qui effectivement n'est pas libre de sa communication et qui doit se justifier a posteriori, on rétropédale et du coup le message est complètement flou.
Donc il ne faut pas occulter le fait aussi, et ça je l'ai dit depuis le début, qu'il reste et qu'il y a toujours des zones d'ombre par rapport à ce rapport. Hein. Il n'est pas question de dire que tout est bouclé, que tout est clos. Et voilà, moi je le dis, on voit bien dans ce rapport qu'il y a des zones d'ombre sur ce qui s'est passé et il faut qu'on éclaircisse ça parce qu'on a un devoir de transparence et d'explication, ne serait-ce que pour la famille de Steve.
Alors ce doit être fait notamment parce que le procureur de Nantes a de son côté ouvert une instruction pour homicide volontaire. Donc une procédure judiciaire qui s'ajoute à la réponse de l'administration, l'IGPN, qui va enquêter Fabien Jobard. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une enquête, d'une procédure judiciaire qui viendrait donc compléter le travail de l'IGPN ?
Non, l'enquête judiciaire, elle complète pas le travail de l'IGPN. Elle est vraiment totalement indépendante du travail de l'IGPN. Si vous voulez, l'IGPN s'est retrouvé embarqué dans une situation dans laquelle, en moins de 3 semaines, et avec des moyens manifestement limités, est-ce qu'ils auraient pu faire mieux ? Peut-être, sans doute. Ils ont dû rendre un rapport qui répondait à une demande médiatique de l'opinion publique et politique. Bon, désormais, on va avoir une enquête judiciaire menée par des juge d'instruction. Donc là, le procureur n'est plus en charge, mais ce sont des juges indépendants qui vont mener l'enquête. Et ils vont mener l'enquête en utilisant pour cela tout moyen. Accéder à des documents, opérer par perquisition, auditionner, placer en garde à vue tous les moyens qui échoient à des juges d'instruction. Donc on est en droit, en effet, de beaucoup attendre de cette enquête. Notamment, bien sûr, pour établir les responsabilités administratives, comme Denis Jacob vient de le dire, sur l'organisation ou la tolérance d'une fête à proximité de la Loire, qui n'est pas un mince petit cours d'eau tranquille, sur l'opportunité de l'intervention, sur la proportionnalité des moyens employés et sur la coordination de l'ensemble et d'éventuelles recherches de responsabilité individuelle. L'enquête judiciaire, elle peut tout faire.
Et ce qui n'est pas le cas ou pas de l'inspection générale de l'administration qui a été suivie par Édouard Philippe et donc ne doit pas se concentrer sur l'action policière en elle-même le jour de la fête de la musique, mais des choix politiques opérés en amont. Marion Guémas, qu'est-ce qu'on peut en attendre là aussi ? Qu'est-ce que vous attendez de ce rapport, de ce travail ?
Alors, je n'ai pas réfléchi particulièrement à ce que j'attendais de cette enquête-là. De manière générale, la question se pose effectivement pourquoi l'IGA n'a pas été saisie dès le départ ? Parce que la question de l'emplacement, peut-être que dès le début, on aurait pu se poser la question de pourquoi on accepte de faire cette... on laisse les gens à cet endroit-là. De manière plus générale, sur beaucoup d'opérations de maintien de l'ordre, depuis le début aussi des Gilets jaunes ces derniers mois, on peut se demander pourquoi l'IGA n'a pas été saisie pour questionner justement les choix politiques qui peuvent être faits ou les choix au niveau des préfectures sur les dispositifs de maintien de l'ordre. Mais après, voilà, ça relève du ministère de l'Intérieur, c'est à lui qu'il faudrait poser la question.
Parce que la question qui en découle, et ce à quoi je voulais vous amener, c'est sur cet argument qu'on entend, qui est de dire que ce rapport de l'IGPN et l'IGA vont travailler sur des responsabilités politiques. Est-ce que c'est une façon, selon vous, à la CAT, d'enterrer toute responsabilité policière ?
Non, non, pas nécessairement. Surtout qu'en fait, c'est en parallèle, voilà, de l'enquête judiciaire. Donc, ce sont deux choses qui, voilà, la responsabilité préfectorale sont effectivement très importantes à examiner. Donc, ce sera un élément de plus. Mais les choses sont bien évidemment séparées et doivent être examinées de manière séparée.
Et le défenseur des droits qui s'est saisi d'office d'une enquête sur la disparition de Steve Maya Caniço, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Le défenseur des droits, il peut avoir d'autres informations ou ça vous paraît vain?
Non, c'est jamais vain parce qu'on aura les résultats d'une autorité qui est indépendante, ce qui n'est pas le cas de l'IGPN ou de l'IGA. Donc ça peut avoir, enfin, avec des moyens malheureusement qui sont quand même sensiblement limités. Le défenseur des droits n'a pas les moyens de l'enquête judiciaire. Donc il peut auditionner des personnes, enfin les personnes ne sont pas obligées de répondre. Il n'a pas de pouvoir de perquisition, etc. Tout ce qu'on vient de dire. Donc ça peut être un élément complémentaire, après avec la difficulté aussi du défenseur des droits qui prend des positions très affirmées, donc que la CAT apprécie, mais qui, je pense, ne sont pas toujours appréciées du corps policier. Et justement, je pense que, voilà, on l'a vu aussi ces derniers mois avec le dernier rapport d'activité qui est très très critique, et je serais curieuse de savoir dans quelle mesure ça a un impact sur la façon dont il peut effectivement mener ses enquêtes.
Le corps policier qui n'apprécie pas toujours l'action du défenseur des droits, mais de l'IGPN, alors, cette police des polices qui est censée superviser, contrôler le travail de la police, comment les policiers, comment les forces de l'ordre l'appréhendent? Denis Jacob, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'être entendu par l'IGPN dans la moindre...
Moi non, j'ai jamais eu cette chance, entre guillemets, d'être auditionné par l'IGPN. J'ironise hein, quand je parle de chance, parce que le simple fait d'être convoqué à l'IGPN est déjà vécu comme une sanction par les policiers.
La convocation, oui, c'est déjà
sûr,
quelque chose de difficile.
Parce que on n'enlève pas la réputation de l'IGPN, comme on l'appelle communément chez nous, les bœufs carottes. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que l'IGPN a une façon d'enquêter et de poser des questions suffisamment alambiquées pour essayer de vous faire dire ce que on a envie d'entendre de vous ou ce que vous voulez pas dire. L'IGPN n'est pas apprécié par les policiers en général parce que on la considère comme une direction qui n'enquête qu'à charge contre les policiers, rarement à décharge. C'est comme ça que c'est ressenti chez nous. Et parce que vous pouvez très bien être auditionné, voire sanctionné, pour une affaire d'ordre privé. Par exemple, on en parlait avec Marion ce matin dans le cadre d'un rendez-vous, le fait de ne pas avoir payé son loyer et de se retrouver mis en demeure par... vous pouvez être auditionné par l'IGPN, un problème de couple, dispute...
Un problème privé, quoi, de
policier. Oui, bien sûr, parce qu'on est policier, parce qu'on a un devoir d'exemplarité et que le moindre écart peut vous valoir une convocation à l'IGPN. C'est régulier.
Mais je pensais, Fabien Jobard, que l'IGPN était saisi que dans des cas graves qui engagent...
Non, absolument pas. En fait, le pouvoir disciplinaire, il est partagé par deux instances dans la police, le chef de service, donc le commissaire, d'un côté, et effectivement, pour les cas plus graves, qui appellent d'autres sanctions que l'avertissement et l'autre sanction du même groupe, l'IGPN. Pourquoi, par exemple, l'IGPN se met-elle à enquêter sur les policiers qui ne paieraient pas leur loyer? On peut dire, c'est tatillon, c'est privé, mais un policier qui ne paye pas son loyer, c'est un policier qui a des soucis financiers, qui a des dettes, et c'est donc ça. Qui est faillible. Faillible à la corruption, faillible à l'achat de faveurs. D'où l'intervention de l'IGPN. D'où aussi le fait, d'ailleurs, que beaucoup de propriétaires aiment louer leurs appartements, notamment dans le ressort de la préfecture de police, de la préfecture de police à Paris, à des policiers, parce qu'ils savent que le loyer sera payé. Au-delà de ça, l'IGPN, si vous voulez, c'est une administration qui est une administration où les enquêteurs sont des policiers. Statutairement. Et donc, l'IGPN est vu de l'extérieur comme étant nécessairement jugé parti, oui. Puisque les policiers se jugent entre eux, d'une certaine manière. Ils jugent leur père, P-A-I-R-S. Et de la part des policiers, elle est vue avec une extrême méfiance parce que, vu qu'il s'agit de policiers, ce sont aussi des gens qui sont passés par les services de police, les services actifs, qui sont aguerris et qui savent parfois mieux que d'autres poser les bonnes questions. Ce sont des fonctionnaires qui sont pris entre deux feux. Beaucoup de pays étrangers ont trouvé à ça des accommodements. Vous avez dans un certain nombre de pays étrangers des instances d'inspection, d'enquête sur les actes policiers qui sont menés conjointement par des policiers et par des non-policiers. Ce qui permet d'une certaine manière d'obtenir un regard sur l'activité du service d'inspection et en même temps de faire en sorte que les requêtes des requérants ou de l'opinion publique soient prises en compte, soient transportées au cœur même de l'enquête sur les policières. Ça, ce sont des solutions qui n'ont pas été encore envisagées en France, mais je pense que la crise que soulève ici, paradoxalement, l'effort de communication de l'IGPN pourrait amener à réfléchir à ce type de solution.
Mais il y a le fait que des policiers contrôlent des policiers, mais aussi, Marion Guémas, que l'IGPN est un service du ministère de l'Intérieur, que son directeur est nommé par l'exécutif, que les agents qui y sont affectés le sont par le ministère de l'Intérieur et que leur carrière en dépend. C'est par exemple le chercheur Sébastien Rocher qui l'a rappelé récemment dans une tribune au Monde et la tribune était titrée non, il est faux d'affirmer que l'IGPN est indépendante, quelque chose comme ça. Marion Guémas, où se situe pour vous le cœur du problème? Que ce soit des policiers qui jugent des policiers, que le ministère de l'Intérieur est toujours présent.
On a effectivement pas une indépendance réelle, puisque donc voilà, le directeur de l'IGPN est nommé en conseil des ministres et est révocable à tout moment. Donc peut-être que voilà, la situation serait un peu différente si c'était un mandat auquel on ne pouvait pas mettre un terme en cours d'exercice. Le fait que des policiers jugent des policiers, je pense qu'effectivement les systèmes mixtes avec des intervenants extérieurs pour apporter un regard différent serait voilà intéressant, parce que effectivement les systèmes où on n'a que un regard extérieur, il y a un problème aussi de légitimité au sein de l'institution policière vis-à-vis de ce regard extérieur qu'on estime pas pertinent parce que les gens savent pas de quoi ils parlent, ils savent pas ce que c'est sur le terrain, et donc on n'aurait pas forcément une institution très solide, peut-être bien vue au niveau de la société, mais pas prise au sérieux au niveau de l'institution policière.
Denis Jobard, est-ce que les fonctionnaires de l'IGPN je vais pas y arriver. Denis Jacob, avez-vous l'impression que les fonctionnaires de l'IGPN se sentent eux-mêmes, en quelque sorte, redevables du ministère de l'Intérieur, se sentent liés à lui?
Non, je le pense pas. C'est pas la directrice de l'IGPN qui mène les enquêtes. Déjà, faut déjà le dire, parce que je pense que la pauvre, les journées de 24 heures seraient pas assez longues. Ce sont des policiers de terrain, ce sont des gradés, des gardiens, des officiers, des commissaires, donc un service de police comme un autre, qui enquête sur les policiers, et donc ces collègues-là ne sont pas soumis à la moindre pression politique. Après que la directrice rédige un rapport pour que ça corresponde un peu à ce qu'on attend d'elle, sans occulter les faits, peut-être. Moi, je suis pas là pour juger du travail de Brigitte Julien, sa prédécesseur, Madame Monéger Guianvard.
Elle était connue pour taper un peu plus du poing sur la table.
C'est quelqu'un qui était très très droite. Moi, je l'ai côtoyé pas mal de temps dans le cadre des instances au sein du ministère de l'Intérieur. Elle a fait beaucoup pour rendre beaucoup plus transparente l'IGPN, pour avoir un devoir de rendre compte à la population. Et je pense que c'est sain pour la police nationale. Mais je veux quand même préciser que l'IGPN n'est pas la seule instance de contrôle et de surveillance de la police nationale. Il faut quand même que la population le sache. Et que ce n'est pas l'IGPN qui prend le plus grand nombre de sanctions dans la police nationale. C'est l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire les chefs de service, les directeurs départementaux. Il y a des conseils de discipline. Et il faut savoir qu'en 2018, il y a eu plus de 2000 sanctions de prise. Et sur ces plus de 2000 sanctions, il y en a eu, je crois, à peine 150 par l'IGPN.
Mais est-ce que les supérieurs connaissent vraiment l'activité de leurs subordonnés? Est-ce que c'est si facile pour eux de savoir exactement ce qui s'est passé sur le terrain, de savoir ce que tel agent a fait ce jour-là? Est-ce que tel autre a fait de son côté, Marion Guémas? Est-ce que
déjà l'IGPN en fait propose des sanctions et c'est pas lui qui les exécute. Donc
c'est
en
ça.
Plus, quand bien même l'IGPN estimerait qu'il y a un manquement, elle ne fait que proposer la sanction, charge à l'autorité administrative de la suivre ou pas.
Quel genre de sanction?
Alors, je pense que
ça peut aller jusqu'à la révocation.
Jusqu'à la révocation, vous avez trois échelles de sanctions. Vous avez premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Oui. Le troisième groupe, c'est le plus important. Mais il faut savoir que effectivement, l'IGPN ne prend pas la sanction et la propose. Mais qu'en général, quand l'IGPN propose la sanction, elle est suivie des faits par l'autorité hiérarchique. Parce que vous le disiez très justement, quand l'IGPN prend une sanction, c'est dans le cadre d'une affaire d'une extrême gravité, parce qu'on a en dessous d'autres échelles de sanctions moins grave que l'autorité hiérarchique prend d'elle-même.
Donc par exemple, quand vous dites des sanctions d'une extrême gravité, ça serait à l'encontre d'un fonctionnaire, d'un agent qui a des problèmes d'argent et qui n'a pas payé ses dettes, plutôt que de fonctionnaires qui ont lancé des gaz lacrymogènes vis-à-vis de manifestants.
Par exemple, des fonctionnaires qui prenaient par exemple l'affaire Néret.
Rappelez-nous l'affaire Néret, donc c'était à Lyon.
C'est ce commissaire qui a dépassé la limite entre son rôle de policier et ses accointances avec des indicateurs et le milieu mafieux et autres.
Et dans le cas de violences policières, alors il y a eu des sanctions déjà prononcées.
Dans le cas de violences policières, on a affaire à un paradoxe. En fait, c'est que les allégations de violences policières sont les dossiers qui sont les plus nombreux à atterrir sur la table de l'IGPN.
Qui est-ce qui est la saisie de l'IGPN?
Les citoyens,
ça c'est possible.
La saisine est facilitée justement par l'action de la directrice qui a précédé Madame Julien, qui a favorisé les requêtes en ligne.
En ligne.
Donc on peut les faire depuis son ordinateur sur la plateforme dédiée de l'IGPN. Simplement, c'est le plus gros volume de requêtes adressées par les citoyens, mais c'est dans ces affaires, les affaires d'allégations de violences policières, que le nombre de faits constatés par l'IGPN est le plus faible. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez une affaire de vol dans les scellés, un fonctionnaire de police présent dans un service ou de vol sur un lieu de perquisition, un fonctionnaire de police embarque une statuette en bronze. Bon. Les faits sont peuvent être relativement facilement établis. Perquisition, on découvre la statuette en bronze. Dans une affaire de violence, comme celle de Nantes, d'emploi de la force, qu'on vient d'évoquer, c'est toujours la confusion qui caractérise les choses. Et surtout, les témoins sont toujours difficiles à réunir. Leur crédibilité est souvent mise en cause par le fait que ce sont des proches de la victime, ou bien ils ont un casier judiciaire, ou bien ils sont défavorablement connus des services de police, et donc pèse à leur encontre une présomption, un doute beaucoup plus élevé que la parole d'un policier qui est un fonctionnaire, qui a passé des concours et qui exerce son métier dans un cadre bien établi. Et donc, si vous voulez, vous avez ce paradoxe. L'IGPN est saisi d'un nombre élevé d'allégations de violence, ce qui en ressort en termes de propositions de sanctions in fine est très faible. D'où le soupçon qui pèse sur cette institution dans ces affaires-là, les affaires d'allégations de violence, de faire le jeu des policiers.
Marion Guémas, il aurait peut-être presque fallu que la responsabilité soit portée par un policier parmi tous ceux qui sont intervenus à Nantes. Une responsabilité individuelle aurait été établie, alors que là, on est dans un collectif et finalement plus personne ne sait exactement ce qui s'est passé et aucune responsabilité collective n'a été établie.
Le but, c'est pas de trouver un coupable et de lui taper dessus. C'est de comprendre ce qui s'est passé et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. C'est aussi peut-être la limite justement des enquêtes judiciaires où on identifie une personne. Enfin, il faut réussir à identifier le policier qui est en cause pour pouvoir le sanctionner. Ce qui ne remet pas justement, pour revenir à ce qu'on disait en début d'émission, les responsabilités administratives à cet égard, le contentieux devant les juridictions administratives est aussi très intéressant parce que ça permet de sanctionner la responsabilité de l'État dans les consignes qui peuvent être données, dans la formation aux agents, etc. Là, on le voit, et d'ailleurs, c'est assez éloquent, c'est que, alors ça, c'était quand l'IGPN a publié son rapport au mois de juin, mai-juin, et sur les premières enquêtes sur les gilets jaunes, Brigitte Julien qui dit ça, plus de la moitié des affaires, ils n'arrivent pas à identifier les policiers qui sont en cause. Donc,
il y aura pas forcément de sanctions pénales, parce que pas de policiers identifiés, pas de sanctions, ça voudra pas dire qu'il n'y a pas eu de violence excessive, un usage de la force illégitime.
Marion Guémas, vous qui êtes en contact avec des avocats qui défendaient des personnes qui se disent victimes de violences policières, comment ces avocats qui assistent, j'imagine, aux auditions, aux interrogatoires, je ne sais pas comment on les appelle, de policiers par des policiers de l'IGPN, comment ça se passe ces interrogatoires ?
Alors moi j'ai plus des retours sur les personnes qui sont victimes, qui déclarent être victimes d'usage excessif de la force et donc qui sont entendues par l'IGPN. Ce qui ressort en tout cas sur les questions qui concernent le maintien de l'ordre, donc les manifestations sur la voie publique, le sentiment des avocats, mais après voilà, les enquêtes ne sont pas terminées, donc peut-être que c'est des appréciations qui sont erronées, c'est que les questions sont souvent orienté pour permettre finalement de mettre à jour une situation très très compliquée, le chaos, et donc le policier, il n'a pas voulu viser la personne qui a perdu un œil, c'était le méchant qui était derrière.
Les avocats vous disent que en tout cas, les interrogatoires sont biaisés, quoi, qu'ils ont fait.
Alors, biaisés, je pense que ça, il y a ce côté de, on essaye de comprendre. Il y a effectivement, objectivement, des situations qui sont très différentes. C'est difficile d'identifier. Mais par exemple, moi, j'ai aussi rencontré l'inspection générale de la gendarmerie nationale et eux, ils ont déclaré ne pas avoir de problème d'identification.
Alors, Denis Jacob, est-ce que vous sentez, en tant que secrétaire général d'Alternative Police CFDT, mais policier, est-ce que vous avez l'impression d'être contrôlé dans tous les sens, qu'on vous demande de rendre des comptes tout le temps, contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui, que la police agirait impunément ?
Non, alors non seulement on est énormément contrôlé, mais on l'est doublement de par l'IGPN et de l'autorité judiciaire. Et pour donner un exemple, un fonctionnaire de police qui serait mis en cause dans une affaire qui devrait passer en correctionnel, par exemple, peut se voir complètement blanchi et relaxé et se voir malgré tout sanctionné administrativement. C'est le principe de la double sanction.
Double sanction des fonctionnaires, hein,
des pas fonctionnaires,
que des
policiers,
pas que des policiers.
On est quand même le corps le plus sanctionné dans la fonction publique. Et pour rejoindre ce que disait Fabien Jobard tout à l'heure par rapport à la plateforme de signalement qui a été mise en place par l'ancienne directrice de l'IGPN, effectivement, il y a beaucoup de signalements et très peu sont traités par l'IGPN. Pourquoi ? Parce que en fonction du niveau de gravité du signalement effectué, soit c'est l'IGPN qui traite, soit c'est l'autorité locale. Donc si c'est par exemple un fait qui s'est produit dans le 10e arrondissement et que c'est par exemple un contrôle d'identité lors duquel un policier aurait manqué de respect, eh bien c'est l'autorité hiérarchique locale qui va traiter ce type de signalement et pas l'IGPN. Ça c'est important de le préciser. Et puis pour revenir à ce qu'on disait sur essayer de trouver une faute collective par rapport à l'affaire de Steve Canisso, ce qui s'est passé et comment l'intervention s'est déroulé, je rappelle quand même que l'IGPN met en cause un policier pour lequel une autre enquête est en cours, pour avoir notamment utilisé ce qu'on appelle vulgairement la matraque, chez nous on parle de tonfa, mais voilà, parce qu'il aurait frappé une personne qui était au sol. Donc, pour bien montrer que ce rapport ne dédouane pas certaines choses, et qu'au contraire, quand il s'agit de pointer du doigt des manquements, c'est fait très clairement par l'IGPN, d'où la crainte de mes collègues quand ils font des interventions et le risque qu'ils ont d'être très rapidement convoqués à l'IGPN en cas de manquement.
La question qu'on pose dans cette émission, c'est qui contrôle encore la police ? Il y a cette société civile qui désormais peut saisir l'IGPN puisque une plateforme a été mise à sa disposition, mais qui est aussi de plus en plus, disons, partie prenante dans les débats, qui tourne des vidéos amateurs, qui ont le réflexe de sortir leur portable quand il y a une émeute, des petits groupes anti-violence policière aussi qui sont montés un peu partout. Est-ce que l'IGPN et tous ceux qui contrôlent le travail de la police s'en servent, Fabien Jobard, de cette matière-là ?
Oui, absolument. Un des faits majeurs qui a changé le contrôle empirique de la police, c'est moins les évolutions juridiques ou institutionnelles que la multiplication des téléphones portables, dotés de caméras, évidemment. Là, la police, personne n'avait pu le prévoir il y a une vingtaine d'années, mais la police, elle est effectivement sous le regard du public. Alors, ça tombe bien d'une certaine manière, parce que la police est une force publique prévue comme telle par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Maintenant, on sait que les images sont fragiles. Il ne faut pas avoir fait 20 ans d'analyse cinématographique pour savoir qu'une image, il y a un cadre et donc il y a un hors-cadre. Il y a un début de prise et il y a avant la prise et puis il y a après la prise. Mais les images sont versées aux autorités chargées d'enquêter. Et là, je voudrais rappeler que au fond, le rapport par lequel on a ouvert cette émission, c'est c'est quand même un rapport très, très exceptionnel. L'IGPN, elle offre des fonctionnaires enquêteurs à l'autorité judiciaire. Ou bien elle enquête dans le cadre de procédures administratives. La responsabilité de l'enquête sur la mort de Steve Canisso, c'est la justice qu'il a. C'est-à-dire qu'il appartient au juge d'instruction, il me semble qu'ils sont deux à avoir été désignés, de diriger proprement cette enquête. Les magistrats sont ici, et en particulier les magistrats juges d'instruction, sont ici, me semble-t-il, les premiers responsables du contrôle de ce qu'il est advenu ce soir-là.
Donc, une enquête est ouverte et on en saura plus dans quelques semaines, dans quelques mois. Il faut évidemment laisser le temps, notamment aux témoins d'être entendus, ce qui n'a pas été le cas pour ce rapport de l'IGPN. On n'a pas vraiment, mais on peut le faire rapidement pour conclure cette émission, Marion Guémas parlait de toutes les autres instances qui sont chargées de contrôler la police avec plus ou moins de crédibilité ou d'effet. On disait tout à l'heure que le défenseur des droits n'était pas spécialement écouté par les policiers. Mais pour ce qui est de l'ONU, par exemple, de l'Union européenne, qui régulièrement rappelle la France à ses devoirs, notamment en demandant, par exemple, d'enquêter sur les violences policières. C'était l'ONU qui, en mars dernier, demandait notamment à la France enquêté sur l'interpellation de François Baïga en 2016, sur la mort d'Adama Traoré deux mois plus tard et sur les violences commises contre Théo L, mais dont l'ONU dit craindre que ce ne sont pas des cas isolés. À chaque fois, on se dit, mais c'est pas possible, la France va finir par prendre des mesures et jamais.
Non, mais c'est possible parce que l'ONU n'a pas de pouvoir de contrainte de toute façon sur les États. À cet égard, il est éloquent de voir que les rapporteurs... Excusez-moi.
Allez-y.
Que des rapporteurs spéciaux de l'ONU sont venus en France. Donc il y a eu une lettre d'allégation au mois de février, justement au regard du traitement des manifestations, du maintien de l'ordre. Ils sont ensuite venus en France au mois d'avril-mai, et d'après, donc je crois que c'est Libération, qui explique que Christophe Castaner a refusé de les rencontrer. C'est-à-dire le peu de cas que fait le gouvernement français, en tout cas, de ces inquiétudes. Donc on ne peut pas parler de contrôle.
Donc c'est pas eux qui de toute façon auront le dernier mot sur la politique et la stratégie doctrine de maintien de l'ordre à la française. Donc parmi tous les exemples que vous avez cités tout à l'heure à l'étranger, Fabien Jobard, qu'est-ce qu'on peut prendre comme idée ici et là, quelle réforme de l'IGPN on peut envisager? Parce que je pense que autour de la table, je ne sais pas si vous aussi, Denis Jacob, vous êtes d'accord, mais vous avez l'air a priori plutôt partant pour une réforme de l'IGPN.
Il faut déjà préciser que l'IGPN ne classe aucune affaire.
Ne
classe aucune affaire. C'est l'autorité judiciaire qui décide de classer. C'est l'IGPN. C'est pas l'autorité administrative qui décide de classer une affaire. Tout ce qui pourra aller dans le sens de la plus grande transparence du travail de la police nationale est une bonne chose. Mais il faut aussi rappeler que la grande majorité des policiers font très bien leur travail et que malheureusement, c'est une minorité de faits qui jettent l'opprobre sur toute l'institution. Mais tout ce qui ira pour améliorer le fonctionnement de la police et du devoir de rendre compte à la population sera toujours une bonne chose.
Fabien Jobard.
Et dans cet ordre d'idée, le fait de constituer des équipes d'enquête qui soient à la fois des équipes mixtes qui soient constitués à la fois de fonctionnaires de police et de citoyens qualifiés d'une manière ou d'une autre permettrait, je pense, de lever le voile, le soupçon de mystère qui pèse aux yeux du public sur cette institution et de rendre les enquêtes plus accessibles à la fois à l'autorité judiciaire et à l'autorité hiérarchique. C'est, je pense, un des moyens qui doit être mis sur la table compte tenu du nombre tout de même très grand de saisies de l'IGPN pour des faits de violence durant le mouvement des Gilets jaunes.
La transparence, c'est sur quoi a misé le Royaume-Uni, par exemple, pour le bureau indépendant sur la conduite de la police qui met en ligne toutes les affaires dont elle est saisie, ce qui n'empêche pas, on rappelait des enquêtes récentes, d'être les policiers britanniques, d'être critiqués, et ce qui n'empêche pas non plus les bavures. En tout cas, merci à vous trois d'avoir été avec nous ce soir. Marion Guémas, Denis Jacob, ainsi qu'à vous, Fabien Jobard, dont je rappelle le titre de votre dernier livre, c'est La sociologie de la police, toujours disponible aux éditions Armand Collin. Merci à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Stéphanie Villeneuve, Alia Tovin, Léa Capuano, Roxane Poulain et Valentin Berg. Une émission réalisée par Pablo Valero et Milena Elig, avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan.